Vous écoutez Radio Campus Lille.
Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une houle bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent ceux qui disent non. Sur le cœur pour étendards, ont le sourire du Tché, autour du cou des foulards, des keffiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, bon Dieu qu'ils nous ressemblent ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non.
Vincent qui nous a rejoint. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent Flamand qui est enseignant, qui est particulièrement intéressé par ce sujet, avec qui on va donc parler. Alors rapidement, il faut rappeler qu'on est là en juin 43, mais évidemment ça n'a pas commencé là tout de suite. Là, il y a eu tout depuis une dizaine d'années Hitler est arrivé au pouvoir. Il s'est développé un peu partout. On va parler des Sudètes, de la Tchécoslovaquie, de l'Anschluss en Autriche, sans parler de la Lituanie. Enfin, toute sa politique d'expansion. Et la guerre a commencé. Ça a été la guerre totale pendant les années 40, 41 et 42, avec bien sûr l'invasion et l'occupation de la France, de la Belgique, de la Hollande. C'est la guerre un peu partout. Toutes les grandes puissances de l'époque sont dans le coup. Et depuis avril ou juin 41, très précisément, Hitler a attaqué l'Union soviétique et espère donc faire de l'URSS une bouchée, évidemment, pour aller après se partager l'URSS avec le Japon et au passage aller prendre les richesses du Caucase. C'est pour ça que Stalingrad est un enjeu fondamental. Pendant ce temps-là, Leningrad est encore, je crois, sous le siège. Par contre, Hitler a déjà pris une petite leçon à Moscou. Il n'a pas réussi à Moscou, il a dû reculer. Et il est donc maintenant devant Stalingrad, la bataille de Stalingrad, qui effectivement est à la fois une boucherie, hein, c'est de part et d'autre. C'est l'hiver là-bas en Russie. Et les armées de part et d'autre, personne ne veut rien lâcher. Hein. Autant Staline que Hitler ont décidé qu'il n'était pas question de se rendre. Hein. C'est bien ça, Vincent, j'ai résumé à peu près.
Oui, il y a plus d'un million de combattants de chaque côté. Les soviétiques perdent, si ma mémoire est bonne, 650 000 soldats. Et on ne parle pas des civils. Hein.
40 000 civils, je crois.
Parce qu'il y a des civils, bon, là, c'est par centaines de milliers, parce qu'ils sont pris, sous le feu. Et l'armée de Paulus perd un peu plus de 500 000 hommes. Hein, donc il y a plus de 50% de pertes des deux côtés.
On peut dire que c'est une erreur stratégique de Hitler, mais qui lui persiste dans sa folie et qui absolument interdit à Paulus et l'autre armée, j'ai oublié le nom d'ailleurs, parce qu'il y a deux grosses énormes prises de Stalingrad au nord et au sud ou à l'est et à l'ouest, je ne sais plus. Et Hitler a absolument interdit parce que Paulus, les militaires qui sont quand même de temps en temps des gens un peu perspicace avait bien compris que, comme à Moscou d'ailleurs, il fallait reculer et puis se rendre. La victoire n'était pas possible.
Oui, ben après l'offensive de Yukov qui déborde Paulus au nord et au sud, en écrasant les armées roumaines et italiennes qui sont quand même moins solides, la 6e armée de Paulus se retrouve encerclée. Et là, bon, Paulus, dans une circonstance pareille, évidemment, qui est la pire.
C'est la débâcle, là.
Considère que il faut se replier. Et c'est faisable, hein, à l'époque, c'est tout à fait faisable. Mais Göring donne à Hitler l'assurance qu'il va pouvoir ravitailler l'armée de Paulus par pont aérien. En fait, bon, la caractéristique du conflit, c'est que du début à la fin, les nazis ont sous-estimé l'URSS. Notamment parce que pour eux, les Slaves, c'est des sous-hommes.
Qui ne savent pas se battre.
Donc, ils ne sauront pas se battre correctement. Et puis, le plan initial du Führer, c'est quand même de partager sa force d'assaut en trois groupes d'armées. Une au nord vers Stalingrad, une au sud vers le Caucase, une au centre vers Moscou. Bon, donc, il divise ses forces par trois. Ses généraux le regardent bizarrement, d'ailleurs, quand ils voient la monstruosité du projet, quoi. Et puis à Stalingrad, c'est toujours pareil.
Il faut dire quand même qu'effectivement, ça s'était passé tellement vite, parce que quand il a attaqué en juin 1941, aucune résistance en face de lui. Les armées allemandes ont déferlé sur le territoire en passant par la Biélorussie, l'Ukraine.
Oui, sans déclaration
au passage,
de guerre.
En Biélorussie, il faut rappeler qu'il y a eu 600 Oradour. Hein.
Oui, donc, oui, bien évidemment, ils exterminent en avançant, puisque les Slaves font partie du plan d'extermination. Il y a bien évidemment les Juifs, hein, qui sont le cas le plus connu, mais il n'y a pas que ça, quoi. Les Tziganes, les homosexuels, les Slaves doivent être exterminés, enfin, entre autres, hein, je ne peux pas faire la liste, c'est exhaustive. Bon, et puis, l'attaque se fait sans déclaration de guerre. On a ce qui a été appelé le Blitzkrieg, c'est-à-dire l'opération combinée des grandes divisions mécanisées, blindées et des avions d'attaque en piqué, je trouve qu'un Flugzeug, qui font complètement exploser les défenses ennemies et qui permettent ensuite aux blindés de faire un immense coup de faux en passant sur les arrières des troupes stationnées en face, et de ramasser des dizaines, des centaines de milliers de prisonniers. Ça, Hitler a fait le coup plusieurs fois, enfin, ses généraux en tout cas. Mais là, bon, c'est compter sans l'immensité du pays et puis sans la détermination soviétique en face.
C'est pas la première fois non plus dans son histoire que la Russie et les soviétiques sont envahis. Hein. Il y a eu le célèbre précédent de Napoléon.
Voilà, il y a eu 1812, les soviétiques refont la même chose que Kutuzov, c'est-à-dire leur pli et la terre brûlée. Dans un deuxième temps. Et puis après, bon, quand il faut tenir, l'hiver venu, devant Moscou, Yukov tient contre-attaque. Et à Stalingrad, là aussi, on tient et on contre-attaque. C'est tout à fait significatif.
Alors Stalingrad, c'est effectivement un enjeu parce que c'est un verrou géographique, c'est une place fondamentale à la fois économique et stratégique. Si Stalingrad n'avait pas tenu.
Oui, ben là, Hitler pouvait commencer à s'emparer des gisements pétrolifères du sud.
Et des minerais aussi.
Oui, et l'objectif, c'était de pouvoir tenir une guerre longue, parce que les États-Unis sont entrés dans le conflit. Et donc, Hitler estime que maintenant, il a besoin de grandes ressources en minerais, en combustible, etc. Donc, son principal objectif, c'est de mettre la main sur les champs pétrolifères. D'abord, c'est ça, quoi. Et Stalingrad est un verrou. Ce qui me paraît aussi intéressant, ça, il faut quand même bien le voir, c'est au-delà des aspects militaires, c'est l'enjeu politique qui continue aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. C'est pas terminé. Parce que, bon, aujourd'hui, on apprend aux enfants dans les écoles... en vertu des nouveaux programmes scolaires, qu'il existe deux grands systèmes, les démocraties et les totalitarismes. Maintenant, c'est dans les programmes, c'est un chapitre des manuels de lycée, les totalitarismes. Et les totalitarismes, c'est le nazisme et le communisme. C'est Hitler et Staline. Et l'idée, c'est que finalement, Hitler et Staline étaient idéologiquement très proches. Et qu'en face, on avait les puissances démocratiques, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc.
Quand on dit la guerre mondiale, c'est vraiment une guerre mondiale. Quand on est à cette époque-là, 42-43, là, vraiment toute la planète entière est concernée. En Afrique du Nord, en Italie, au Japon, il y a eu Pearl Harbor en décembre 41, où là, les États-Unis sont rentrés vraiment physiquement dans le conflit. Jusque maintenant, les États-Unis, avec Roosevelt, s'étaient tenus... Il y a même eu des tentatives de négociation, Roosevelt, dans une période juste avant, là, non ? En espérant négocier une paix entre les Anglais et les Allemands.
Oui, bien sûr, mais c'est ça qu'il ne faut jamais oublier de rappeler, c'est que ce qu'on appelle les grandes puissances démocratiques, en réalité, ont plusieurs fois cherché et ont plusieurs fois composé avec Hitler. Il ne faut pas oublier que le premier accord, c'est celui de Munich en 1938, c'est-à-dire avant le pacte germano-soviétique.
Il y en avait même eu avant la conférence de Paris, alors que Hitler avait déjà pris les Sudètes.
Voilà, Chamberlain, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, est un sympathisant quand même du nazisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a été montré et rappelé par Annie Lacroix-Riz, par exemple. C'est quelqu'un qui ne voit pas du tout d'un mauvais œil l'expansion... L'expansion nazie en Europe. Et aux États-Unis, on hésite très longtemps à intervenir. C'est quand on s'aperçoit que l'Allemagne devient un concurrent dangereux et qui peut menacer l'hégémonie américaine. Et c'est pour ces raisons-là qu'elle entre dans le conflit. Sinon,
aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les isolationnistes, c'est-à-dire ceux qui disent qu'il faut absolument intervenir, on les laisse s'entretuer.
Voilà,
et
puis c'est pas notre affaire.
Les marrons du feu.
C'est pas notre affaire. Après, il y aura un prétexte politique, mais bon. Même politiquement, disons que Hitler n'est pas spécialement mal vu. Bon, évidemment, si des milieux d'affaires, israélites, bon, là, évidemment, ils ne peuvent pas avoir de sympathie pour lui, étant donné le contenu de ses discours. Mais même de ce côté-là, ça a flotté. Ça a d'ailleurs été rappelé dans le film de Chaplin, Le Dictateur, qui montre qu'en réalité, on peut s'accommoder de beaucoup de choses de ce qui se passe en Allemagne. Bon, et que, surtout, la ruée vers l'Est, c'est-à-dire l'attaque de l'Union soviétique, est souhaitée, le Drang nach Osten, on attend ça, quoi. On compte beaucoup sur Hitler pour faire la peau à l'Union soviétique.
Surtout qu'on dit aussi maintenant qu'avant le pacte germano-soviétique, Staline avait fait des tentatives auprès des Anglais et des Français pour se faire une alliance, parce que stratégiquement, on savait bien que ce qui est arrivé devait arriver. Donc il fallait s'arranger.
Bah oui, les Soviétiques se font pas d'illusions sur les objectifs du Troisième Reich. Il est évident, étant donné la ligne de ce régime, qu'il va s'en prendre violemment à l'Union soviétique un jour ou l'autre. Et donc, on a affaire ici à une tentative d'encerclement de l'Union soviétique qui, elle, cherche à briser cet encerclement.
Parce que de l'autre côté, il y a le Japon.
Oui, en faisant des alliés. D'abord, elle va devoir militairement se débarrasser du Japon, parce que c'est une sérieuse menace sur le front oriental. Heureusement que l'Union soviétique a réussi à remporter une victoire militaire contre le Japon avant le déclenchement du plan Barbarossa. Sinon, elle était complètement encerclée, étouffée. Et puis, Annie Lacroix-Riz aussi rappelle par ailleurs qu'en France même, par exemple, il y a énormément de sympathisants du régime nazi. Le régime...
Plutôt Hitler que le Front Populaire.
Voilà, exactement. Plutôt Hitler que le Front Populaire qui va nous...
Donc ça, c'était en 36.
Hein. La vermine rouge, voilà, c'était après 36, où avec le Front Populaire, la bourgeoisie de ce pays a eu très peur. Bon, bref, il n'y a pas du tout, comme on pourrait le raconter, d'abord une espèce de grand front contre l'Allemagne de Hitler, et encore moins une espèce d'entente entre les totalitarismes soviétiques et allemands d'un côté, contre les démocraties de l'autre. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et quand ils arrivent au bout de leurs années de lycée, les élèves mélangent tout maintenant. Pour eux, bon, communistes, nazis, c'est pareil.
C'est du révisionnisme.
C'est une forme de révisionnisme.
Ou une forme de révisionnisme.
Ça revient à complètement a complètement simplifié, a séparé entre bons et méchants. C'est pas de l'histoire. L'histoire, c'est pas ça. C'est
pas d'un côté des bons. Il y a une date commémorative là, qui serait donc prévue normalement, je crois, dans le mois d'août. Il y avait une date où justement on liait ces deux dictatures.
Ouais, il y avait un projet en Europe de commémoration des crimes du nazisme,
du fascisme et du communisme.
Ouais, du nazisme et du communisme.
Et le jour,
ça,
le
je crois que
jour.
C'était le 23 août.
Le 23 août, oui, tout à fait, je pense.
Il faudrait que je revoie, mais il me semble que la date prévue, c'était ça, oui. L'idée, c'est ça. Et bon, ce qui montre aussi que le problème est pas réglé. C'est ce que j'ai rappelé d'ailleurs à Stalingrad dans mon intervention. C'est que, par exemple, la Russie actuelle, la Russie de Poutine, a déposé à l'Assemblée générale de l'ONU un texte condamnant le fascisme, et les États-Unis ont voté contre. Donc, c'est toujours pas réglé, cette histoire-là. Les États-Unis ne veulent pas qu'on dénonce comme ça le nazisme en tant que tel. Et autour de cette question, l'enjeu, c'est les pays baltes, dans lesquels, maintenant, le discours dominant, c'est « Nous avons été libérés par les Allemands, les Soviétiques nous ont envahis et occupés ».
C'est devenu la version officielle.
Oui, quasiment. Des groupes manifestent en uniforme noir, notamment des vétérans des divisions SS lettonnes, des divisions SS baltes, hein, qui se sont battus aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, manifestent régulièrement dans les rues des capitales en uniforme noir, comme mot d'ordre. Souvenons-nous de ceux qui nous ont libérés, c'est-à-dire des combattants allemands.
Ça, c'est dans les années 2000, c'est maintenant.
C'est maintenant, oui, c'est maintenant. Ça continue.
Ça continue. Donc là, c'est franchement du révisionnisme, ça.
Là, oui.
Revenons à Stalingrad, ce moment important. D'ailleurs, ça rejoint à ce que tu disais. C'est qu'à fin 43, on commence à sentir, enfin, les responsables, les alliés commencent à sentir le truc. Il y a une série de conférences, plus ou moins officielles, plus ou moins confidentielles. Il y a eu la conférence au Québec entre Churchill et Roosevelt, une conférence discrète, c'était au mois d'août. Il y a eu une rencontre à Moscou entre les alliés, c'était en octobre 1943. Il y a eu la conférence du Caire et après il y a eu la conférence de Téhéran. Parce qu'effectivement, Stalingrad a vraiment, s'il le fallait, ouvert les yeux aux alliés en se disant « attention, là, il y a danger ».
Oui, cette fois, après Stalingrad, il est quand même clair que l'Allemagne ne peut plus gagner le conflit et qu'il va donc falloir faire avec... le vainqueur, même si on ne l'aime pas beaucoup, à savoir l'Union soviétique. Et l'encerclement est complètement rompu. C'est-à-dire qu'on accepte de discuter, on ne peut pas faire autrement.
Et à ce moment-là, Staline obtient ce qu'il avait demandé depuis longtemps, c'est-à-dire un deuxième front. Et là, ça va se terminer par le débarquement et la capitulation finale le 8 et 9 mai 1945.
Oui.
Avec toute une phase de reconquête, l'Afrique du Nord, l'Italie, la Grèce. On pourrait faire une demi-heure d'histoire, là. Et cette capitulation, c'est aussi une deuxième date fondamentale, avec la conférence de Yalta, bien sûr.
Oui. Il est d'ailleurs, de manière récurrente, question de plus la fêter, la capitulation. Ou alors on l'appelle pas comme ça, d'ailleurs. On parle d'armistice.
L'armistice, c'est Pétain qui l'avait signé en mai 40.
Oui, mais plusieurs fois, si vous surveillez bien le discours,
les journalistes, faut faire
discours gaffe, des médias,
les mots sont dans leur
importance. Il est question de l'armistice du 8 mai 45, alors qu'il n'y a pas eu d'armistice.
C'est une capitulation sans condition.
L'armistice, c'est une discussion. Les Alliés n'ont pas discuté avec les nazis, heureusement. Vous déposez les armes, point, et après, on fait ce qu'on veut. Il faut voir aussi que, soit dit en passant, le deuxième front il est ouvert également parce que les États-Unis ne veulent pas que l'Union soviétique écrase l'Allemagne toute seule en Europe et arrive, arrive à l'Atlantique.
Sa zone d'influence jusqu'à l'Atlantique.
C'est-à-dire que c'est déjà la guerre froide qui commence en même temps, le deuxième front. Ce sont les prémices de la guerre froide, c'est-à-dire le début du partage de l'Europe. C'est l'objectif.
Il faut rappeler aussi que jusqu'à je ne sais pas si c'est à peu près à Stalingrad, mais jusqu'à une date, à peu près à ce moment-là, les États-Unis avaient accepté de vendre des armes aux belligérants, c'est-à-dire des deux côtés.
Bien sûr, oui.
À tous les belligérants.
Oui. Il n'y a pas de petit profit. Évidemment, après, la stratégie change. Et bon, l'objectif des soviétiques pendant la suite des événements, ça sera d'obtenir une zone de pays neutre en Europe centrale. Quoi. Ça sera la revendication suivante. Ça sera qu'on démilitarise, qu'on fasse un cordon, un tampon. Quoi. Parce que bon, l'Union soviétique a quand même subi deux agressions, coup sur coup. Enfin, la Russie soviétique d'abord. Parce que là aussi, c'est assez peu connu, mais après la révolution de 17, il y a eu des contingents étrangers qui sont intervenus, tout de suite. On le voit par exemple dans Capitaine Conan, le film Capitaine Conan, qui à mon avis, si je me souviens bien, le dernier film qui rappelle ce problème. Et puis, bon, il y a évidemment l'agression de 41, l'agression hitlérienne. Et la hantise des soviétiques, ça sera d'empêcher que ça recommence une troisième fois.
Parce que donc avec
20 millions de morts, c'est quand même lourd.
20 millions de morts, c'est le bilan global, oui. Généralement...
Bilan humain.
Ouais. Ça, il n'y a pas de révisionnisme, là. Tout le monde a ce chiffre de 20 millions de morts du côté soviétique. C'est...
Là-dessus, non, il est, celui-là n'est pas contesté.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de...
celui-là n'est pas contesté.
Alors après le 8 mai, effectivement, là, c'est la recomposition complète, je l'ai dit tout à l'heure, les accords de Yalta, qui a mené une répartition, un partage, ou une, comment on appelle ça, un dérèglement à l'amiable, entre guillemets,
ouais, si on
de la planète. Il faut noter aussi, entre-temps, qu'il y a eu quand même eu Hiroshima et Nagasaki, au mois d'août 1945.
Ouais, qui sont un avertissement aussi, dans le cadre de la guerre froide, oui.
Voilà, qui était...
Qui vient de commencer, oui.
Y a la France aussi qui rentre au Conseil de sécurité de l'ONU. Tiens, en 45, il y en a que 5 des puissances au Conseil de sécurité de l'ONU en 45.
Oui, grâce à la résistance gaulliste et communiste qui a quand même plus que sauvé l'honneur, en l'occurrence. Sinon, sans la résistance, la France devenait une puissance mineure. C'est-à-dire un pays qui s'est complètement aplati et qui a laissé l'Allemagne nazie régler ses problèmes. Heureusement, ça n'a pas été le cas.
Et en juillet 1945, c'est la conférence de Potsdam qui, là, va faire le partage, le dépeçage de l'Allemagne. Enfin, le dépeçage.
Oui.
Parce que là aussi, les alliés s'étaient mis d'accord, ou se mettent d'accord, pour dire qu'il n'y a pas question il faut absolument que la grosse puissance allemande soit annihilée. Donc, les quatre secteurs, un secteur à l'est, le secteur soviétique, et puis les Anglais, les Américains et les Français, qui se partagent ce qu'on appelle maintenant l'Allemagne de l'Ouest, enfin en 1945.
Voilà, oui. Et là toujours la revendication soviétique d'avoir une Allemagne neutre et démilitarisée. Et comme les États-Unis vont unilatéralement décider d'appliquer le plan Marshall à la partie qu'ils occupent, de fait, là, l'Allemagne va se couper en deux. Et l'Union soviétique répondra en mettant la partie orientale sous sa zone d'influence.
Et ça va durer jusqu'en 89.
Oui, avec...
La chute de l'Union soviétique.
Avec la chute du mur. J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux, disait Malraux. Et là, il n'y en a plus qu'une.
Et la réunification allemande dans la suite du chute du mur. Donc on se retrouve maintenant, donc actuellement, dans une situation, les cartes ont été complètement rebattues, et on est dans une situation qui n'est plus de guerre froide, mais...
Là, pour ce qui est du poids de l'Allemagne, je rappellerai simplement ce qu'a dit un certain Joschka Fischer, qui était ministre vert des Affaires étrangères dans les années 90. Je cite de mémoire, l'Allemagne va-t-elle enfin obtenir ce qui lui a été refusé lors de deux conflits mondiaux, à savoir une sorte d'hégémonie douce sur l'Europe ? Et je pense qu'on peut voir que la réponse est oui. En ce moment, bon, on s'extasie sur les performances économiques de la puissance allemande, etc. Bon, en réalité, le principal secret de cette puissance, c'est que la monnaie unique qui s'est imposée, elle a été fabriquée selon les critères imposés par la Banque de Francfort. Bon, si vous laissez un pays imposer sa monnaie, y compris si ça étouffe complètement les économies de pays plus pauvres, comme on est en train de le voir, faut pas s'étonner si après, ils tirent les marrons du feu économiquement. Et concernant la France, je voudrais aussi rappeler au passage que l'une des grandes conséquences de Stalingrad et de la victoire de la résistance en France, ça a été l'application du programme du Conseil national de la résistance.
Exactement.
Qui est largement démantelé, mais qui n'est pas encore complètement...
Il en reste encore un peu, donc oui. C'est aussi l'occasion de rappeler que ce n'est pas tombé du ciel.
Oui.
C'était effectivement le fruit de la Deuxième Guerre mondiale et puis du combat des résistants.
Un grand secteur public, une sécu, des conventions collectives, etc., etc. Tout ça, ça ne vient pas de rien.
Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine rencontre, Vincent.
Volontiers.
Donc Stalingrad, finalement, c'était quelque chose à ne pas oublier.
Non, à ne pas oublier.
Et à réexpliquer.
Et à bien situer.
Ouais. Merci, Vincent.
De rien. Merci à vous.
Entre deux guerres, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière. Nous n'avions que 5 ans, du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou un paix de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagnée au chemin des dames. Et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, coquifiaient Madelon dans les bras de Marlène. Une fois là, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière. Et nous nous en allions en suçant des bonbons, jouer du revolver à dessous le bouchon. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était. On faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens. Dans ce monde truqué, de quelle drôle de guerre, où ceux qui font le front, le bradette à l'arrière. Nous n'avions que 10 ans, et dans nos gibecières, une histoire de France qui tombait en poussière. On nous a fait marcher, traverser les rivières, sur les ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers. Ça tirait par devant, ça poussait par derrière, les plus pressés n'étaient pas les moins militaires. On nous a fait chanter pour un ordre nouveau, d'étranges marseillaises de petite vertu, qui usaient de la France comme d'un rince cul, et s'envoyait en l'air aux portes des ghettos. Et je me souviens, la petite juive, on lui a dit viens, elle était jolie. Elle a fait sa valise, un baiser. s'appelait Lise. Il n'en reste rien. Dans ce monde morné d'avant quelle autre guerre, où le Japon blessé lèche encore son cancer. Dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi ne savent plus si Dieu est devant ou derrière. Dans ce monde d'argent où la banque surnage comme un poisson ventru qui attend le naufrage. Nous n'avons que 30 ans, sainte frousse de la guerre, mais pourtant nous n'avons pas cessé de la faire. On nous a fait marner de Djebel en rizière, de Carib dans Silla, de cuvette en civière. Comme si nous n'avions pas autre chose à faire qu'à montrer nos fesses aux quatre coins de la terre. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait bien, elle était jolie. On faisait des bêtises, on ne faisait rien. Voici la deuxième chanson de Maurice Fanon, chanson pour l'Irlande. On est en Europe, là. Je me souviens de cette Irlande et dire que j'allais oublier. T'as une manche de guérande en irlandais chez les Anglais. Je me souviens de cette Irlande, c'était un peu comme à côté. De chez nous, entre deux Charentes, la maritime vérité. Je me souviens de cette Irlande, 8 siècles pour une moitié de liberté. Il faut apprendre à dire je t'aime en irlandais. Allez, Joe, chante-moi l'Irlande, de Londonderry à Dublin. Je me souviens de cette Irlande, du vieux Sinn Féiner qui n'avait toujours qu'un penny dans sa manche, mais de whisky pour la santé. Je me souviens de cette Irlande, de Bernadette qui disait je n'ai rien à vendre, à revendre, et l'Angleterre pour les Anglais. Ils me reviennent cette Irlande, qu'à nouveau la poudre a parlé, qu'à Derry la blessure est grande, ce sont des fusils anglais. Allez Joe, chante-moi l'Irlande, la vie n'est pas simple à côté. Que puis-je faire pour l'Irlande, moi qui ne sais guère que chanter. Allez Joe, chante-moi l'Irlande, dites-moi messieurs les Anglais, il y a 8 siècles qu'en Irlande vous avez tiré les premiers.
Et voilà, on a eu le plaisir d'écouter deux chansons de Maurice Fanon, mais interprétées par Francesca Salvi. Juste à l'instant, c'était Chanson d'Irlande. Et au préalable, c'était La Petite Juive.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais,
qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.
Oh,
Voilà, vous avez certainement reconnu, si vous avez un peu de mémoire, c'était l'hymne soviétique, hein, l'hymne de l'URSS. Alors Marc, pourquoi on passe cet hymne de l'URSS ?
Eh bien effectivement, là c'est en direct de la place Stalingrad. Hein. C'était donc en début février, si mes souvenirs sont exacts, c'était le 2 février. Et de nombreux orateurs éloquents du PRCF ont pris la parole, parce qu'il faut dire qu'à l'origine, cette manifestation était organisée par le PRCF. Donc il y a eu effectivement des prises de parole qui ont pu évoquer la guerre, la résistance, celle de la petite Russie, la Corrèze. On la nomme comme ça parce qu'elle a donné... Effectivement, on fait partie un grand nombre de résistants ou d'origine russe, des gens dans ce mouvement de la résistance en Corrèze.
Donc c'est en France.
Absolument. Ouais. On a évoqué tout ça, je dirais. Mais alors il faut savoir aussi qu'il y avait donc l'ambassadeur de Russie qui était présent et qui a fait bien sûr un discours en reprenant en fin de compte des témoignages et des lettres d'anciens donc de la bataille de Stalingrad. Hein. C'est donc Alexandre Orlov. Il y avait aussi l'amiral russe Chirov, parce qu'effectivement la marine a joué un rôle très très important dans cette victoire de Stalingrad. Et il y a donc eu aussi le président de l'association d'amitié France-URSS, ancienne URSS, on va dire, et aussi le président de l'association pour la culture russe en France. Et après, bien sûr, un grand nombre d'associations ont pris la parole. Je sais qu'entre autres, il y a eu les amis d'Algérie Républica, donc en fin de compte, par rapport au parti du PSDA, je crois. Algérien. La jeunesse communiste était présente, il faut le signaler, les jeunes étaient là. Hein. Ils ont été aussi présents dans ce froid qui ne ressemblait pas non pas à la bataille de Stalingrad, je n'irai pas jusque-là, mais il y avait là, parce que je crois que le moment est trop important pour y placer cette note d'humour, mais il y avait effectivement du monde sur cette place, c'était un grand événement. Alors on va pouvoir tour à tour Écoutez donc Léon Landini dans un discours présentant un petit peu les raisons de ce rassemblement. Et ensuite, il y aura derrière un gaulliste de gauche qui a parlé, mais malheureusement le nom m'échappe, et qui décrit un peu plus, justement tout ce qui a pu se passer et là-bas et chez nous, avec ce parcours qu'il a pu vivre lui-même. Voilà, donc je propose qu'on écoute Léon Landini, qui est lui du PRCF, responsable du PRCF, et ensuite qu'on puisse écouter ce discours.
Je vous rappelle que tout ça, c'est à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Stalingrad. Ça se passait le 30 janvier 1943. C'était la reddition de Paulus et des armées nazies. Une petite ambiance, c'était très précisément quand à Paris là ?
Eh bien, c'était le 2 février. Si mes souvenirs sont bons, le dimanche 2 février. Si le dimanche 2 février est un dimanche.
Mesdames, messieurs, chers amis, très chers camarades, monsieur l'ambassadeur Orlov vient de m'annoncer il y a quelques instants qu'au même moment où ici nous nous sommes réunis, débute le défilé à Volgograd, c'est-à-dire à Stalingrad même, pour honorer les combattants qui ont participé à notre libération. Merci. Merci à toutes et à tous de permettre par votre présence ici de rendre à l'occasion du 110e anniversaire de la bataille de Stalingrad un grand hommage aux vaillants soldats de l'armée rouge qui le 2 février 1943, après plus de 200 jours d'un siège effroyable, mirent fin au combat en remportant une immense victoire sur l'armée nazie. Je tiens aussi à remercier mes camarades du pôle de Renaissance communiste en France, initiateurs et organisateurs de cette manifestation. Sans leur pugnacité et leur volonté de faire de ce 70e anniversaire une date marquante dans notre pays, ce rassemblement n'aurait pas eu lieu. J'adresse également un salut fraternel à mon ami et camarade André Schmer, ici présent, qui fut le plus jeune combattant des FTP-MOI de la région Rhône-Alpes. Tout en écrivant cette intervention, j'ai revécu une quantité de souvenirs que je croyais effacés. Ceux-ci me sont réapparus comme si cela venait de se passer il y a quelques jours seulement. La mémoire, oui, la mémoire est une force impérieuse, impossible de la contrôler, impossible de lui échapper. Elle nous fait revivre des images vues ou vécues que l'on croyait oubliées et qui pourtant vous serrent le cœur et vous arrachent une sueur glacée.
Скользая Ambassadeurs, leurs représentants, chers amis, permettez que j'emprunte depuis mon enfance ce chemin mémorable des collines et crêtes tragiques, d'où la souffrance aux hommes ne cesse de parler et d'enseigner l'amour humain et la paix. Laurette et Vimy à leurs pieds. Tout jeune, j'ai moi-même croisé ces revenants bleus morts à demi de la nuit de mai 40. Douaumont, où ces grands champs infiniment étaient semés de blanches croix. Buchenwald, là-haut, par-dessus Weimar, où Goethe et Schiller parlaient encore de la Révolution française. Et puis, Mamaïev. Mamaïev, récent voyage où m'étreignit, pareil à l'immensité des lieux et symboles, dans le vent fouettant d'Orient, un simple et terrible chagrin. Faut-il vous le dire, moi qui suis enfant de cette dernière guerre, je ne confonds rien. Et si j'ai laissé aller mon cœur à cette litanie, je n'oublie pas et conçois clairement ce que nomme et comment résonne chacun de l'humaine et fautive discorde. Je me suis efforcé d'en percevoir partout les mobiles secrets et les noirs desseins, et chaque fois aussi, par-dessus tout, la peine et le malheur de ceux qu'on abusait et martyrisait. Mais à Mamaïev, en ce théâtre illimité de la guerre reconstitué, dans le grand silence contradictoire d'aujourd'hui, je fus saisi d'une autre vision, d'une autre conscience. Rassurez-vous, je ne crois pas à la révélation. Que cette ville dont j'imaginais la ruine et le désastre, avait une âme, et que cette âme, selon Wallisy Grossman, c'était la liberté. Alors, tourné au loin vers cette liquide frontière de la Volga, je m'emplis de reconnaissance et d'ardeur vindicative. Oui, ici, à Stalingrad, la liberté, la nôtre, fut sauvée. La guerre y prit un autre tournant de conquête et d'espérance. Jamais cette flamme ne s'éteindra pour témoigner envers toute l'humanité que c'est 25 millions de soviétiques, dont significativement les combattants de Stalingrad, de par leur sacrifice, ont ouvert le douloureux chemin de la libération. Entendez alors Aragon proclamer depuis sa drôme résistante « Victoire à l'Est, où l'ombre est prise au piège blanc de la clarté. Ô matin de la liberté, la rouge aurore y terrorise un vainqueur désorienté. J'ai vu cette capitale de la guerre contre le fascisme et je n'oublierai jamais, jamais, par devoir de vérité et d'amitié, je comprenais tous les adhérents de l'Union que je préside. Je ne laisserai s'insinuer dans quelque thèse ou récit l'ignominieuse ivrée du révisionnisme historique. Toujours nous dénoncerons, ici ou là en Europe, les fascismes immondes. Et de l'histoire, ainsi faisant bonne lecture, nourrit toujours de ce qu'en ces temps dément, l'alliance nous fit, Russes et Français, frères de combat. Je sais que tous nos travaux présents, associatifs, nous servent bien, Français et Russes réciproquement, et la paix supérieurement, nos horizons et nécessités partagés de libres citoyens. Ô jeunes de France et de Russie, que nous voudrions en ce jour plus unis que jamais, attachés seulement à ce qui vous rassemble et vous grandit de savoir pacifique, l'assurance puisse-t-elle vous être donnée que l'ordre est mis à jamais dans les grands ossuaires et que Seine et Volga, sous le pont rêvé de vos bras, porterez à cette grande confluence souvenirs et espoirs mêlés. Avec vous, jeunesse, nous nous souviendrons et de l'avenir espérons.
Ça se passait le 3 février dernier, donc c'était sur la place de Stalingrad à Paris, à l'occasion de la commémoration de cette victoire. En 1943, le 3 février 1943, la reddition des armées allemandes qui avaient été encerclées par les armées soviétiques.